Le Capital, livre premier, première section, chapitre grand 3, grand 3, petit b, moyens de paiement. Dans la forme immédiate de la circulation des marchandises, examinée jusqu'ici, la même valeur se présente toujours double, marchandise à un pôle, monnaie à l'autre. Les producteurs échangistes entrent en rapport comme représentants d'équivalents qui se trouvent déjà en face les uns des autres. À mesure cependant que se développe la circulation, se développent aussi des circonstances tendant à séparer par un intervalle de temps l'aliénation de la marchandise et la réalisation de son prix. Les exemples les plus simples nous suffisent ici. Telle espèce de marchandise exige plus de temps pour sa production. Telle autre en exige moins. Les saisons de production ne sont pas les mêmes pour des marchandises différentes. Si une marchandise prend naissance sur le lieu même de son marché, une autre doit voyager et se rendre à un marché lointain. Il se peut donc que l'un des échangistes soit prêt à vendre, tandis que l'autre n'est pas encore à même d'acheter. Quand les mêmes transactions se renouvellent constamment entre les mêmes personnes, les conditions de la vente et de l'achat des marchandises se régleront peu à peu d'après les conditions de leur production. D'un autre côté, l'usage de certaines espèces de marchandises, d'une maison par exemple, est aliéné pour une certaine période, et ce n'est qu'après l'expiration du terme que l'acheteur a réellement obtenu la valeur d'usage stipulée. Il achète donc avant de payer. L'un des échangistes vend une marchandise présente, l'autre achète comme représentant d'argent à venir. Le vendeur devient créancier, l'acheteur débiteur. Comme la métamorphose de la marchandise prend ici un nouvel aspect, l'argent lui aussi acquiert une nouvelle fonction. Il devient moyen de paiement. Les caractères de créancier et de débiteur proviennent ici de la circulation simple. Le changement de sa forme imprime au vendeur et à l'acheteur leur cachet nouveau. Tout d'abord, ces nouveaux rôles sont donc aussi passagers que les anciens et joués tour à tour par les mêmes acteurs. Mais ils n'ont plus un aspect aussi débonnaire et leur opposition devient plus susceptible de se solidifier. Note de bas de page. Voici quels étaient les rapports de créanciers à débiteurs en Angleterre au commencement du XVIIIe siècle. Ouvrez les guillemets. Il règne ici, en Angleterre, un tel esprit de cruauté parmi les gens de commerce qu'on ne pourrait rencontrer rien de semblable dans aucune autre société d'hommes, ni dans aucun autre pays du monde. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. An Essay on Credit and the Bankrupt Act, London, 1707, page 2, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, les caractères de créancier et de débiteur proviennent ici de la circulation simple. Le changement de sa forme imprime au vendeur et à l'acheteur leur cachet nouveau. Tout d'abord, ces nouveaux rôles sont donc aussi passagers que les anciens et joués tour à tour par les mêmes acteurs. Mais ils n'ont plus un aspect aussi débonnaire et leur opposition devient plus susceptible de se solidifier. Les mêmes caractères peuvent aussi se présenter indépendamment de la circulation des marchandises. Dans le monde antique, le mouvement de la lutte des classes a surtout la forme d'un combat toujours renouvelé entre créanciers et débiteurs et se termine à Rome par la défaite et la ruine du débiteur plébéien qui est remplacé par l'esclave. Au Moyen Âge, la lutte se termine par la ruine du débiteur féodal. Celui-là perd la puissance politique dès que croule la base économique qui en faisait le soutien. Cependant, ce rapport monétaire de créancier à débiteur ne fait à ces deux époques que réfléchir à la surface des antagonismes plus profonds. Revenons à la circulation des marchandises. L'apparition simultanée des équivalents marchandises et argent aux deux pôles de la vente a cessé. Maintenant, l'argent fonctionne en premier lieu comme mesure de valeur dans la fixation du prix de la marchandise vendue. Ce prix, établi par contrat, mesure l'obligation de l'acheteur, c'est-à-dire la somme d'argent dont il est redevable à terme fixe. Puis, il fonctionne comme moyen d'achat idéal. Bien qu'il n'existe que dans la promesse de l'acheteur, il opère cependant le déplacement de la marchandise. Ce n'est qu'à l'échéance du terme qu'il entre comme moyen de paiement dans la circulation, c'est-à-dire qu'il passe de la main de l'acheteur dans celle du vendeur. Le moyen de circulation s'était transformé en trésor parce que le mouvement de la circulation s'était arrêté à sa première moitié. Le moyen de paiement entre dans la circulation, mais seulement après que la marchandise en est sortie. Le vendeur transformait la marchandise en argent pour satisfaire ses besoins, le thésauriseur pour la conserver sous forme d'équivalent général, l'acheteur débiteur enfin pour pouvoir payer. S'il ne paye pas, une vente forcée de son avoir a lieu. La conversion de la marchandise en sa figure valeur, en monnaie, devient ainsi une nécessité sociale qui s'impose au producteur échangiste indépendamment de ses besoins et de ses fantaisies personnelles. Supposons que le paysan achète du tisserand 20 mètres de toile au prix de 2 livres sterling, qui est aussi le prix d'un quart de froment, et qu'il les paye un mois après. Le paysan transforme son froment en toile avant de l'avoir transformé en monnaie. Il accomplit donc la dernière métamorphose de sa marchandise avant la première. Ensuite, il vend du froment pour 2 livres sterling qu'il fait passer au tisserand au terme convenu. La monnaie réelle ne lui sert plus ici d'intermédiaire pour substituer la toile au froment. C'est déjà fait. Pour lui, la monnaie est au contraire le dernier mot de la transaction. En tant qu'elle est la forme absolue de la valeur qu'il doit fournir, la marchandise universelle. Quant au tisserand, sa marchandise a circulé et a réalisé son prix, mais seulement au moyen d'un titre qui ressortit du droit civil. Elle est entrée dans la consommation d'autrui avant d'être transformée en monnaie. La première métamorphose de sa toile reste donc suspendue et ne s'accomplit que plus tard, au terme d'échéance de la dette du paysan. Note de bas de page. La citation suivante, empruntée à mon précédent ouvrage, Critique de l'économie politique, 1859, montre pourquoi je n'ai pas parlé dans le texte d'une forme opposée. Ouvrez les guillemets. Inversement, dans le procédé grand A-grand M, l'argent peut être mis dehors comme moyen d'achat et le prix de la marchandise être ainsi réalisé avant que la valeur d'usage de l'argent soit réalisée ou la marchandise aliénée. C'est ce qui a lieu tous les jours, par exemple, sous forme de prénumération. Et c'est ainsi que le gouvernement anglais achète dans l'Inde l'opium des riots. Dans ces cas, cependant, l'argent agit toujours comme moyen d'achat et n'acquiert aucune nouvelle forme particulière. Trois petits points. Naturellement, Le capital est aussi avancé sous forme argent. Mais il ne se montre pas encore à l'horizon de la circulation simple. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, L'Occit, page 112-120, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, quant au tisserand, sa marchandise a circulé et a réalisé son prix, mais seulement au moyen d'un titre qui ressortit du droit civil. Elle est entrée dans la consommation d'autrui avant d'être transformée en monnaie. La première métamorphose de sa toile reste donc suspendue et ne s'accomplit que plus tard, au terme d'échéance de la dette du paysan. Les obligations échues dans une période déterminée représentent le prix total des marchandises vendues. La quantité de monnaie exigée pour la réalisation de cette somme dépend d'abord de la vitesse du cours des moyens de paiement. Deux circonstances la règlent. Premièrement, l'enchaînement des rapports de créanciers à débiteurs, comme lorsque grand A, par exemple, qui reçoit de l'argent de son débiteur grand B, le fait passer à son créancier grand C, et ainsi de suite. Deuxièmement, l'intervalle de temps qui sépare les divers termes auxquels les paiements s'effectuent. La série des paiements consécutifs ou des premières métamorphoses supplémentaires se distingue tout à fait de l'entrecroisement des séries de métamorphoses que nous avons d'abord analysées. Non seulement la connexion entre vendeurs et acheteurs s'exprime dans le mouvement des moyens de circulation, mais cette connexion naît dans le cours même de la monnaie. Le mouvement du moyen de paiement, au contraire, exprime un ensemble de rapports sociaux préexistants. La simultanéité et contiguïté des ventes, ouvrez la parenthèse, ou achats, fermez la parenthèse, qui fait que la quantité des moyens de circulation ne peut plus être compensée par la vitesse de leur cours, forme un nouveau levier dans l'économie des moyens de paiement. Avec la concentration des paiements sur une même place, se développent spontanément des institutions et des méthodes pour les balancer les uns par les autres. Tels étaient, par exemple, à Lyon, au Moyen-Âge, les virements. Les créances de grand A sur grand B, de grand B sur grand C, de grand C sur grand A, et ainsi de suite, n'ont besoin que d'être confrontées pour s'annuler réciproquement, dans une certaine mesure, comme quantités positives et négatives. Il ne reste plus ainsi qu'une balance de compte à solder. Plus est grande la concentration des paiements, plus est relativement petite leur balance, et par cela même la masse des moyens de paiement en circulation. La fonction de la monnaie comme moyen de paiement implique une contradiction sans moyen terme. Tant que les paiements se balancent, elles fonctionnent seulement d'une manière idéale, comme monnaie de compte et mesure des valeurs. Dès que les paiements doivent s'effectuer réellement, elles ne se présentent plus comme simple moyen de circulation, comme forme transitive servant d'intermédiaire au déplacement des produits, mais elle intervient comme incarnation individuelle du travail social, seule réalisation de la valeur d'échange, marchandise absolue. Cette contradiction éclate dans le moment des crises industrielles ou commerciales auxquelles on a donné le nom de crise monétaire. Note de bas de page. Il faut distinguer la crise monétaire dont nous parlons ici et qui est une phase de n'importe quelle crise, de cette espèce de crise particulière à laquelle on donne le même nom, mais qui peut former néanmoins un phénomène indépendant, de telle sorte que son action n'influe que par contre-coup sur l'industrie et le commerce. Les crises de ce genre ont pour pivot le capital-argent et leur sphère immédiate est aussi celle de ce capital, la banque, la bourse et la finance. Fin de la note de bas de page. Donc, la fonction de la monnaie comme moyen de paiement implique une contradiction sans moyen terme. Tant que les paiements se balancent, elle fonctionne seulement d'une manière idéale, comme monnaie de compte et mesure des valeurs. Dès que les paiements doivent s'effectuer réellement, elle ne se présente plus comme simple moyen de circulation, comme forme transitive servant d'intermédiaire au déplacement des produits, mais elle intervient comme incarnation individuelle du travail social, seule réalisation de la valeur d'échange, marchandise absolue. Cette contradiction éclate dans le moment des crises industrielles ou commerciales auxquelles on a donné le nom de crise monétaire. Elle ne se produit que là où l'enchaînement des paiements et un système artificiel destinés à les compenser réciproquement, se sont développés. Ce mécanisme vient-il, par une cause quelconque, à être dérangé? Aussitôt la monnaie, par un revirement brusque et sans transition, ne fonctionne plus sous sa forme purement idéale de monnaie de compte. Elle est réclamée comme argent comptant et ne peut plus être remplacée par des marchandises profanes. L'utilité de la marchandise ne compte pour rien et sa valeur disparaît devant ce qui n'en est que la forme. La veille encore, le bourgeois, avec la suffisance présomptueuse que lui donne la prospérité, déclarait que l'argent est une vaine illusion. « La marchandise seule est argent, » s'écriait-il. « L'argent seul est marchandise. » Tel est maintenant le cri qui retentit sur le marché du monde. Comme le cerf altéré brame après la source d'eau vive, ainsi son âme appelle à grands cris l'argent, la seule et unique richesse. Note de bas de page, ouvrez les guillemets. Le revirement subi du système de crédit en système monétaire ajoute l'effroi théorique à la panique pratique. Et les agents de la circulation tremblent devant le mystère impénétrable de leur propre rapport. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Karl Marx, Locksit, page 126, fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Le pauvre reste morne et étonné de ce que le riche n'a plus d'argent pour le faire travailler. Et cependant, le même sol et les mêmes mains qui fournissent la nourriture et les vêtements sont toujours là. Et c'est là ce qui constitue la véritable richesse d'une nation, et non pas l'argent. Fermez le guillemet, ouvrez la parenthèse. John Bellers, Proposals for Raising a College of Industry, London, 1696, page 33, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, la crise monétaire ne se produit que là où l'enchaînement des paiements et un système artificiel destiné à les compenser réciproquement se sont développés. Ce mécanisme vient-il, par une cause quelconque, à être dérangé? Aussitôt la monnaie, par un revirement brusque et sans transition, ne fonctionne plus sous sa forme purement idéale de monnaie de compte. Elle est réclamée comme argent comptant et ne peut plus être remplacée par des marchandises profanes. L'utilité de la marchandise ne compte pour rien, et sa valeur disparaît devant ce qui n'en est que la forme. La veille encore, le bourgeois, avec sa suffisance présomptueuse que lui donne la prospérité, déclarait que l'argent est une vaine illusion. « La marchandise seule est argent, » s'écriait-il. « L'argent seul est marchandise. » Tel est maintenant le cri qui retentit sur le marché du monde. Comme le cerf altéré brame après la source d'eau vive, ainsi son âme appelle à grands cris l'argent, la seule et unique richesse. L'opposition qui existe entre la marchandise et sa forme valeur est, pendant la crise, poussée à l'outrance. Le genre particulier de la monnaie n'y fait rien. La disette monétaire reste la même, qu'il faille payer en or ou en monnaie de crédit, en billets de banque par exemple. Note de bas de page. Voici de quelle façon ces moments-là sont exploités. Ouvrez les guillemets. Un jour, 1839 entre parenthèses, un vieux banquier de la cité, causant avec un de ses amis dans son cabinet, souleva le couvercle du pupitre devant lequel il était assis et se mit à déployer des rouleaux de billets de banque. « En voilà, dit-il d'un air tout joyeux, pour 100 000 livres sterling. Ils sont là en réserve pour tendre la situation monétaire. » Ouvrez la parenthèse. « To make the money tight. » Fermez la parenthèse. « Et ils seront tous dehors à 3 heures cet après-midi. » Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. « The Theory of the Exchanges, the Bank Charter Act of 1844. » London, 1864, page 81, fermez la parenthèse. L'organe semi-officiel, l'Observer, publié à la date du 28 avril 1864. Ouvrez les guillemets. Il court certains bruits vraiment curieux sur les moyens auxquels on a eu recours pour créer une disette de billets de banque. Bien qu'il soit fort douteux qu'on ait eu recours à quelque artifice de ce genre, la rumeur qui s'en est répandue a été si générale qu'elle mérite réellement d'être mentionnée. Fermez les guillemets. Fin de la note de bas de page. Donc, l'opposition qui existe entre la marchandise et sa forme valeur est, pendant la crise, poussée à l'outrance. Le genre particulier de la monnaie n'y fait rien. La disette monétaire reste la même, qu'il faille payer en or ou en monnaie de crédit, en billets de banque, par exemple. Si nous examinons maintenant la somme totale de la monnaie qui circule dans un temps déterminé, nous trouverons qu'étant donné la vitesse du cours des moyens de circulation et des moyens de paiement, elle est égale à la somme des prix des marchandises à réaliser, plus la somme des paiements échus, moins celle des paiements qui se balancent, moins enfin l'emploi double ou plus fréquent des mêmes pièces pour la double fonction de moyen de circulation et de moyen de paiement. Par exemple, le paysan a vendu son froment moyennant 2 livres sterling, qui opère comme moyen de circulation. Au terme d'échéance, il les fait passer au tisserand. Maintenant, elle fonctionne comme moyen de paiement. Le tisserand achète avec elle une Bible, et dans cet achat, elle fonctionne de nouveau comme moyen de circulation, et ainsi de suite. Étant donné la vitesse du cours de la monnaie, l'économie des paiements et les prix des marchandises, on voit que la masse des marchandises en circulation ne correspond plus à la masse de la monnaie courante dans une certaine période, un jour par exemple. Il court de la monnaie qui représente des marchandises depuis longtemps dérobées à la circulation. Il court des marchandises dont l'équivalent en monnaie ne se présentera que bien plus tard. D'un autre côté, les dettes contractées et les dettes échues chaque jour sont des grandeurs tout à fait incommensurables. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Le montant des ventes ou achats contractés dans le cours d'un jour quelconque n'affectera en rien la quantité de la monnaie en circulation, ce jour-là même. Mais pour la plupart des cas, il se résoudra en une multitude de traites sur la quantité d'argent qui peut se trouver en circulation à des dates ultérieures plus ou moins éloignées. il n'est pas nécessaire que les billets signés ou les crédits ouverts aujourd'hui aient un rapport quelconque relativement soit à la quantité, au montant ou à la durée, avec ceux qui seront signés ou contractés demain ou après-demain. Bien plus, beaucoup de billets et de crédits d'aujourd'hui se présentent à l'échéance avec une masse de paiement dont l'origine embrasse une suite de dates antérieures absolument indéfinies. Ainsi, souvent, les billets à 12, 6, 3 et 1 mois, réunis ensemble, entrent dans la masse commune des paiements à effectuer le même jour. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. The currency question reviewed. A letter to the Scotch people by a banker in England. Edinburgh, 1845, page 29-30, passim, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, étant donné la vitesse du cours de la monnaie, l'économie des paiements et les prix des marchandises, on voit que la masse des marchandises en circulation ne correspond plus à la masse de la monnaie courante dans une certaine période, un jour par exemple. Il court de la monnaie qui représente des marchandises depuis longtemps dérobées à la circulation. Il court des marchandises dont l'équivalent en monnaie ne se présentera que bien plus tard. D'un autre côté, les dettes contractées et les dettes échues chaque jour sont des grandeurs tout à fait incommensurables. La monnaie de crédit a sa source immédiate dans la fonction de l'argent comme moyen de paiement. Des certificats constatant les dettes contractées pour des marchandises vendues circulent eux-mêmes à leur tour pour transférer à d'autres personnes les créances. À mesure que s'étend le système de crédit, se développe de plus en plus la fonction que la monnaie remplit comme moyen de paiement. Comme telle, elle revêt des formes d'existence particulières dans lesquelles elle hante la sphère des grandes transactions commerciales, tandis que les espèces d'or et d'argent sont refoulées principalement dans la sphère du commerce de détail. Note de bas de page. Pour montrer par un exemple dans quelle faible proportion l'argent comptant entre dans les opérations commerciales proprement dites, nous donnons ici le tableau des recettes et des dépenses annuelles d'une des plus grandes maisons de commerce de Londres. Ces transactions, dans l'année 1856, lesquelles comprennent bien des millions de livres sterling, sont ici ramenées à l'échelle d'un million, en livres sterling. Recettes. Traite de banquiers et de marchands payables à terme. 533 596. Chèques de banquiers, etc. payables à vue. 357 715. Billets des banques provinciales, 9627. Billets de la Banque d'Angleterre, 68554. Or, 28089. Argent et cuivre, 1486. Mandat de poste, 933. Total, 1 million. Dépenses. Traites payables à terme. 302 674. Chèques sur des banquiers de Londres. 663 672. Billets de la Banque d'Angleterre. 22 743. Or, 9 427. Argent et cuivre. 1484. Total, 1 million. Ouvrez la parenthèse. Report from the Select Committee on the Bank Acts. juillet 1858, page 71, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, à mesure que s'étend le système de crédit, se développe de plus en plus la fonction que la monnaie remplit comme moyen de paiement. Comme telle, elle revêt des formes d'existence particulières dans lesquelles elle hante la sphère des grandes transactions commerciales, tandis que les espèces d'or et d'argent sont refoulées principalement dans la sphère du commerce de détail. Plus la production marchande se développe et s'étend, moins la fonction de la monnaie comme moyen de paiement est restreinte à la sphère de la circulation des produits. La monnaie devient la marchandise générale des contrats. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Dès que le train du commerce est ainsi changé, qu'on n'échange plus marchandise contre marchandise, mais qu'on vend et qu'on paie, tous les marchés s'établissent sur le pied d'un prix en monnaie. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. An Essay upon Public Credit, seconde édition, London, 1710, page 8. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, plus la production marchande se développe et s'étend, moins la fonction de la monnaie comme moyen de paiement est restreinte à la sphère de la circulation des produits. La monnaie devient la marchandise générale des contrats. Les rentes, les impôts, etc., payés jusqu'alors en nature, se payent désormais en argent. Un fait qui démontre, entre autres, combien ce changement dépend des conditions générales de la production, c'est que l'Empire romain échoua par deux fois dans sa tentative de lever toutes les contributions en argent. La misère énorme de la population agricole en France sous Louis XIV, dénoncée avec tant d'éloquence par Boisguilbert, le maréchal Vauban, etc., ne provenait pas seulement de l'élévation de l'impôt, mais aussi de la substitution de sa forme monétaire à sa forme naturelle. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. L'argent est devenu le bourreau de toute chose. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La finance est l'alambic qui a fait évaporer une quantité effroyable de biens et de denrées pour faire ce fatal précis. L'argent déclare la guerre à tout le genre humain. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Boisguilbert, Dissertation sur la nature des richesses, de l'argent et des tribus. Édition d'Air, Économiste financier, Paris, 1843, pages 413, 417, 419. Fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, la misère énorme de la population agricole en France sous Louis XIV, dénoncée avec tant d'éloquence par Boisguilbert, le maréchal Vauban, etc., ne provenait pas seulement de l'élévation de l'impôt, mais aussi de la substitution de sa forme monétaire à sa forme naturelle. En Asie, la rente foncière constitue l'élément principal des impôts et se paye en nature. Cette forme de la rente, qui repose là sur des rapports de production stationnaires, entretient par contre-coup l'ancien mode de production. C'est un des secrets de la conservation de l'Empire turc. Que le libre commerce octroyé par l'Europe au Japon amène dans ce pays la conversion de la rente nature en rente argent, et s'en est fait de son agriculture modèle soumise à des conditions économiques trop étroites pour résister à une telle révolution. Il s'établit dans chaque pays certains termes généraux où les paiements se font sur une grande échelle. si quelques-uns de ces termes sont de pure convention, ils reposent en général sur les mouvements périodiques et circulatoires de la reproduction liés aux changements périodiques des saisons, etc. Ces termes généraux règlent également l'époque des paiements qui ne résultent pas directement de la circulation des marchandises, tels que ceux de la rente, du loyer, des impôts, etc. La quantité de monnaie qu'exigent à certains jours de l'année ces paiements, disséminés sur toute la périphérie d'un pays, occasionne des perturbations périodiques, mais tout à fait superficielles. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Le lundi de la Pentecôte 1824, raconte Mr. Craig, à la commission d'enquête parlementaire de 1826, il y eut une demande si considérable de billets de banque à Édimbourg qu'à 11h du matin, nous n'en avions plus un seul dans notre portefeuille. Nous en envoyâmes chercher dans toutes les banques, les unes après les autres, sans pouvoir en obtenir, et beaucoup d'affaires ne purent être conclues que sur des morceaux de papier. À 3h de l'après-midi, cependant, tous les billets étaient de retour aux banques d'où ils étaient partis. Ils n'avaient fait que changer de main. Fermez les guillemets. Bien que la circulation effective moyenne des billets de banque en Écosse n'atteigne pas 3 millions de livres sterling, il arrive cependant qu'à certains termes de paiement dans l'année, tous les billets qui se trouvent entre les mains des banquiers, à peu près 7 millions de livres sterling, sont appelés à l'activité. Ouvrez les guillemets. Dans les circonstances de ce genre, les billets n'ont qu'une seule fonction à remplir. Et dès qu'ils s'en sont acquittés, ils reviennent aux différentes banques qui les ont émis. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. John Fullarton, Regulation of Currencies, deuxième édition, London, 1845, page 86, note, fermez la parenthèse. Pour faire comprendre ce qui précède, il est bon d'ajouter qu'au temps de Fullarton, les banques d'Écosse donnaient, contre les dépôts, non des chèques, mais des billets. Fin de la note de bas de page. Donc, la quantité de monnaie qu'exigent à certains jours de l'année ces paiements, disséminés sur toute la périphérie d'un pays, occasionnent des perturbations périodiques, mais tout à fait superficielles. Il résulte de la loi sur la vitesse du cours des moyens de paiement que pour tous les paiements périodiques, quelle que soit leur source, la masse des moyens de paiement nécessaires est en raison inverse de la longueur des périodes. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Dans un cas où il faudrait 40 millions par an, les mêmes 6 millions, en or entre parenthèses, pourraient-ils suffire aux circulations et aux évolutions commerciales ? Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Oui, répond Petty, avec sa supériorité habituelle. Si les évolutions se font dans des cercles rapprochés, chaque semaine, par exemple, comme cela a lieu pour les pauvres ouvriers et artisans qui reçoivent et payent tous les samedis, alors 40 sur 52 de 1 million en monnaie permettront d'atteindre le but. Si les cercles d'évolution sont trimestriels, suivant notre coutume de payer la rente ou de percevoir l'impôt, 10 millions seront nécessaires. Donc, si nous supposons que les paiements en général s'effectuent entre une semaine et trois, il faudra alors ajouter 10 millions à 40 sur 52, dont la moitié est 5 millions et demi, de sorte que, si nous avons 5 millions et demi, nous avons assez. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. William Petty, Political Anatomy of Ireland, 1672, Edit London, 1691, page 13, 14, fermez la parenthèse, Fin de la note de bas de page. Donc, il résulte de la loi sur la vitesse du cours des moyens de paiement que pour tous les paiements périodiques, quelle qu'en soit la source, la masse des moyens de paiement nécessaires est en raison inverse de la longueur des périodes. La fonction que l'argent remplit comme moyen de paiement nécessite l'accumulation des sommes exigées pour les dates d'échéance. Tout en éliminant la thésaurisation comme forme propre d'enrichissement, le progrès de la société bourgeoise la développe sous la forme de réserve des moyens de paiement.